Chapitre 57. Céleste. Novak se tenait l'œil, hurlant de douleur. Helios et Clark abandonnèrent le combat pour porter secours à leurs compagnons d'armes.
« T'es taré !»
hurla Helios en essayant d'attraper Chrysante par le cou.
« Je te préviens, s'il perd un œil !»
Chrysante se recula sans cesser d'agiter sa poupée au bout de son beau.
« Tu veux que Lali t'en crève un à toi aussi ?»
cracha-t-elle. Ses yeux noirs tournaient à toute vitesse dans leurs orbites trop creusées. Lunella s'avança derrière eux.
« C'est bon, Chris, on se calme maintenant, tout est fini !»
En effet, les cinq soldats, inquiets pour leur chef, escortaient Novak vers l'infirmerie et disparaissaient déjà au bout de la galerie en direction du salon de la paix. Chrysante cria à travers la porte du roi.
« T'es là, Zizo? Avec ton amoureuse, c'est ça? Alors, va surtout pas croire que c'est pour tes beaux yeux que Lali et moi on est intervenus. C'est uniquement parce que je peux encore moins supporter l'autre dingue en fauteuil roulant que ta reine avec ses fleurs sur la tête. »
Lunella prit Chrysante par l'épaule, mais elle ne bougea pas.
« Crains rien, Zizo. Je vous laisse. Je vais pas entrer pour vérifier ce que tu fais avec elle. »
Chrysante décrocha Lali de son long bâton, laissa tomber la fourchette qui rebondit en carillonnant sur le parquet, pressa la poupée contre son cœur et s'éloigna, seule, en direction de l'escalier où quelques minutes plus tôt les soldats avaient disparu.
« La voie est libre !»
cria à son tour Lunella.
« Tes mousquetaires gardent la porte. Ça vous laisse le temps de continuer de chercher. »
À l'intérieur de l'appartement du roi, Alix et Zizo n'avaient entendu que des coups, des cris, mais avaient compris que les soldats avaient été repoussés, que Chrysante s'en était mêlée et que désormais, les Lolly Girls maîtrisaient la situation, même si les soldats ne tarderaient pas à donner l'alerte et à revenir avec des renforts.
« Fais un effort, Alix !» suppliait Zizo. « T'as suivi des cours d'histoire depuis que t'es née. Quel bouquin peut être le préféré d'Eugénor ?»
Il continuait d'ouvrir des livres au hasard, sans aucun espoir de tomber sur le bon.
« Je n'en sais rien. Il y en a tellement. Et je te signale que je me suis plus souvent retrouvé sur le tatami avec les soldats qu'en cours d'histoire. »
Le soleil s'engouffrait par la haute fenêtre et paraissait ne pas avoir assez de rayons pour faire briller toutes les dorures de cette caverne au trésor. Chaque objet scintillait dès que le halo de lumière l'atteignait. L'immeuble, la frise, les lustres de verre. Zizo resta un instant à regarder les reflets éclatants, comme si l'illumination allait venir du ciel. Pourquoi était-il persuadé que la solution se trouvait dans ce lustre de cristal et pas sur les étagères? Il se concentra, cherchant la connexion entre ces bijoux brillants accrochés au plafond et les lectures d'Eugénor.
Le diamant ! S'écria-t-il soudain. Le régent ! Ce diamant qu'Eugénor porte au bout de sa canne ! Valère nous a raconté son histoire !
Alix feuilletait un rayon entièrement consacré à la dynastie des rois de France, de Clovis à Louis XVIII.
Ça ne va pas nous avancer beaucoup. Tous les rois ont porté cette pierre précieuse et...
Non ! Coupa Zizo. Je veux parler de cette histoire de couronnement !
Napoléon ? Proposa Alix. Napoléon avait fait incruster le régent sur son épée le jour où il s'est fait sacré empereur. Eugénor a fait comme lui.
C'est forcément ça, affirma Zizo,
tout en commençant à déchiffrer les couvertures des livres.
Allez, puise dans tes souvenirs. Quel est le livre le plus célèbre de Napoléon?
Je crois qu'il a écrit ses mémoires ou qu'il les a dictées à quelqu'un avant de mourir.
Il est mort où?
Les dos des livres défilaient sous ses doigts. Alix faisait de même à côté de lui.
Dans une île du bout du monde, je crois. Saint quelque chose.
Leurs deux doigts s'arrêtèrent sur le même volume. Un livre rouge de cuir ancien. Le mémorial de Sainte-Hélène d'Emmanuel de Lascaz.
C'est ça! C'est forcément ça!
Zizo ouvrit l'épais volume et le feuilleta, puis le secoua à l'envers, espérant qu'une feuille en tombe. Une dizaine de pétales jaunes tourbillonnèrent en pluie sur le parquet et les tapis.
Des pétales d'immortels,
bégaya Alix en ramassant l'un d'eux.
Les mêmes que ceux de la couronne qu'on m'a volée.
Elle porta le pétale jusqu'à ses narines pour en sentir l'odeur caractéristique. Zizo roulait des yeux stupéfaits.
Ogénor les a fait sécher dans ce livre. Tu crois que c'est lui le voleur ?
Alix se confirma de la tête. Il n'y avait qu'une seule couronne, et pour la composer, Sabi avait utilisé toutes les immortelles qu'on avait pu faire pousser sous la serre. Ces pétales ne peuvent pas venir d'ailleurs.
Zizo médita un instant sur les conséquences de cette évidence, puis continua silencieusement de faire tourner les feuilles du livre, et soudain s'arrêta.
« Je l'ai !»
Coincée entre deux pages, une lettre était pliée, entourée de deux nouveaux pétales d'immortels qui n'étaient pas tombés. Zizo reconnut la texture du papyrus trouvé dans le sarcophage de Marie-Lune. Il tourna la feuille. Trois lettres étaient tracées au verso. N et O. C'était elle. La lettre adressée à son fils.
« Tu crois que si on la lit, on sera maudit ?» demanda Zizo.
« Maudit, on l'est déjà un peu, non ?»
répondit Alix en dépliant la lettre.
« Et tu as le droit de savoir !» eut la force de plaisanter Zizo. « Après tout, tu as autant de chance qu'une autre d'être la fille de Marie-Lune. »«
Et donc la sœur de Génor ?»
ajouta Alix en grimaçant. Leurs doigts se mêlèrent, comme s'il en fallait bien 20 pour tenir la lettre, et ils lurent, hypnotisés, ensemble. Ogénor, mon trésor. Mon enfant, mon unique enfant désormais, puisque ta sœur m'a été volée. Bien sûr, tous les autres enfants, ceux avec qui tu grandiras, seront persuadés que je suis leur mère, et je le serai, d'une certaine façon. Je ne leur mens pas, je ne leur ai jamais menti. Ils comptent tous tellement pour moi. Mais tu sauras, toi, au fond de ton cœur, qu'un lien unique nous unit. Tu le sauras, et un jour, tu en découvriras la preuve. Si tu lis ces mots, c'est que ce jour est venu, et que j'avais raison de placer toute ma confiance en toi. Ta sœur et toi avez été élevés ensemble pendant les trois premières années de votre vie. Ces années-là où nous avons entretenu avec ton papa, tous les quatre, l'espoir d'une nouvelle utopie. Et même si nous étions condamnés à ne jamais la voir devenir réalité, ton père et moi, ces trois années furent les plus belles de notre vie, parce que vous étiez là. Nous devions tout mettre en œuvre pour construire un monde nouveau, un monde plus beau. Mais ton père ne l'a pas voulu, ou pas compris. Il s'est enfui avec ta sœur, Céleste, mais peut-être lui a-t-il donné un nouveau prénom depuis. Tu as compris, Ogénor. Moi aussi, je vais devoir te laisser, rejoindre mon ultime tombeau et m'y coucher pour toujours. De nous quatre, il ne reste plus que toi. Tu en savais déjà beaucoup dans ce courrier que je t'avais laissé pour le jour de tes 10 ans. Combien en as-tu aujourd'hui ? À l'heure où tu lis ces mots, assez pour porter la responsabilité que je vais te confier. Elle est lourde, mon trésor, si lourde. Mais j'ai tout fait pour que tes épaules soient assez solides et ta tête assez pleine. Personne ne pourra te soulager. Tu seras seul à porter ce secret. Il fera de toi un enfant différent. Solitaire, incompris, trahi, tout comme je l'ai été toute ma vie. C'est notre destin, mon trésor, celui des élus, ceux dont la vie compte moins que le chemin qui leur a été tracé. Tourne la page, Ogénor, et tu comprendras ce que j'attends de toi. Tu trouveras aussi une carte. Garde-la précieusement, elle te permettra de connaître la vérité. Quand tu l'auras décidé. Ogénor, mon trésor, j'espère que tu vivras un jour dans ce monde de paix. C'est toujours ce que j'ai voulu. Que tu sois le premier à voir se lever un monde nouveau et que celui-ci soit plus beau. Je t'en laisse l'unique clé, à toi désormais de le protéger. Ta maman, Marie-Lune. Fébrile, Alix et Zizo tournèrent la page. Il n'y avait aucune carte. Aucun autre mot. Juste quatre longs bâtons. Une cohue indescriptible régnait dans la salle de l'orangerie. Chacun discutait avec son voisin dans une totale cacophonie. Ceux du tipi entre eux, ceux du château entre eux, ceux du tipi avec ceux du château. Augénor s'expliquait avec Vanille. Isalis essayait de convaincre Mook et Camélian, deux garçons du tipi devenus singes et particulièrement doués en musique, que le talent des musiciens du château n'était en rien supérieur au leur.
« Bien joué !»
chuchota Valère en s'approchant de Sabi. Il se hissa sur la pointe des pieds pour se retrouver le nez à hauteur de ses lèvres.
« Je n'aurais pas osé, mais tu as trouvé le seul argument qui pouvait tout changer. La réciprocité !»«
Hein ?»
fit Sabi. Pourquoi fallait-il que Valère et les savants en général utilisent toujours des mots compliqués ?«
La réciprocité !»
répéta l'historien.
« Le fait que quelqu'un fasse preuve de générosité envers un autre parce qu'il pense qu'il pourrait se retrouver dans sa situation ou que ça lui est déjà arrivé. Regarde, tous ceux du tipi, c'est-à-dire la moitié de la salle, s'identifient au préma. Facile, leur histoire est la même. Ils n'ont pas oublié toutes ces années où ils étaient les petits sauvages tremblant de froid et crevant de faim. Mais ils ne vont pas se considérer comme des êtres humains anormaux pour autant. »
Valère avait raison. Il suffisait d'écouter les conversations. On pouvait dire tout ce qu'on voulait sur ces enfants prématurés, mais pas les considérer comme anormaux. Les considérer comme des animaux dangereux, c'était à coup sûr provoquer une nouvelle guerre. Ceux du tipi savaient de quoi ils parlaient. Et beaucoup de singes et de savants du château se rangeaient maintenant à leur avis. Eux aussi avaient appris à vivre avec ceux de l'autre tribu, malgré leurs préjugés pendant des années. Quelques ados tentèrent de reprendre la parole pour aider Augénor et faire basculer de nouveau la controverse. Soutim essaya d'entonner une chanson improvisée pour se moquer des prémas, mais des sifflets couvrirent ses premiers couplets. Minerva et Olympe vinrent ensemble au milieu des cercles de chaises et osèrent maladroitement affirmer que tout le monde était anormal à sa façon. La preuve, les singes n'étaient pas non plus des ados normaux, puisqu'ils étaient presque tous doués d'une sensibilité exceptionnelle, d'un talent inné, en bref, des surdoués. Même Isalis se laissa tomber sur sa chaise devant tant de bêtises, alors qu'une pluie de peau d'orange et de citron pleuvait sur les deux ombrelles de dentelle que les deux filles singes avaient eu le réflexe d'apporter. Bill lui-même eut le courage de prendre la parole, malgré les regards noirs que lui lança Mordelia. Indifférent aux éclats de rire qui ponctuaient son discours, il affirma avec sérieux que les animaux étaient eux aussi des êtres humains normaux et qu'on devait aussi les éduquer, leur apprendre à lire, écrire et compter. La controverse prenait des allures de kermesse. La cause était désormais entendue. Les enfants prématurés étaient des êtres humains normaux et qu'on n'en parle plus. Il faisait trop chaud sous la verrière. Les parfums d'agrumes donnaient à tous des envies folles d'orangeade et de citronnade bien fraîches. Qu'on vote et qu'on en finisse! Même Augénor, reconnaissant qu'il avait perdu, paraissait se désintéresser du débat. Valère, profitant de l'euphorie, cria dans le brouhaha.
Faire en sorte que les prémas vivent dans des conditions décentes n'est pas un devoir pour nous, mais c'est un droit pour eux!
Presque personne n'avait écouté. Et les rares à l'avoir fait n'avaient rien compris. Tant pis. Liu voulut prendre à son tour la parole pour confirmer que les prémas étaient des êtres humains normaux et le démontrer par un long exposé sur l'histoire de l'anthropologie, de l'esclavage et du discours sur l'inégalité des races. Heureusement, Lunella et les autres Lolly Girls entrèrent à ce moment-là dans l'orangerie. Elles adressèrent un clin d'œil à Sabi, que Liu repéra. Le ministre des Inventions devint tout rouge et se mit à bafouiller en regardant Lunella.
« On a compris !»
cria la salle.
« Qu'on vote ! Qu'on vote !»